Très bon réveil à tous. Nous sommes le vendredi 25 décembre et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce moment marque l'aboutissement d'un long voyage, selon la présidente de la Commission européenne. Fin des négociations sur le Brexit. À une semaine de l'échéance, Londres et Bruxelles se congratulent. Ils ont trouvé un accord.
Accord que nous détaillerons dans un instant. Les pêcheurs européens devront, par exemple, reverser chaque année un quart de leur pêche dans les eaux britanniques.
Et s'ils s'inquiètent des modalités de cet accord, ils saluent tout de même la persévérance de Bruxelles. Même félicitations à Londres, où le Premier ministre Boris Johnson redore son blason, vous l'entendrez.
Dans ce journal encore, direction la Guadeloupe où les touristes affluent par milliers.
Entretien aussi avec le député Jean-Luc Retzer, survivant du Covid-19 il y a 7 mois. Et puis reportage dans l'église de la Nativité à Bethléem, bien vide hier soir pour la messe de Noël. Après cette édition, le billet politique, il est consacré ce matin à de la politique, oui, mais en Allemagne en temps de crise. Les commentateurs ce matin évoquent un miracle de Noël. En dehors de toute considération divine, on peut en tout cas souligner la détermination des négociateurs pour aboutir à un accord commercial sur le Brexit. Accord scellé hier en fin d'après-midi, après plus de 4 ans de discussion, 10 mois de vraies tractations et 2000 pages de précisions. Le négociateur en chef pour l'Union européenne, Michel Barnier, a toutefois tenu hier à rappeler les conséquences de cet accord, des changements en profondeur des liens entre le Royaume-Uni et l'Europe. Michel Barnier.
Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit.
De vrais changements, nous allons nous y pencher avec vous à Bruxelles. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Cet accord commercial et accord de sécurité est une prouesse pour Bruxelles au vu de l'étendue des domaines. Domaine, Angélique, très concret.
Oui, en termes de transport aérien, par exemple, maritime, ferroviaire ou encore routier, cet accord maintient des règles communes qui éviteront la pagaille redoutée début janvier. Londres va aussi continuer de collaborer avec les Européens dans le domaine de l'énergie ou la recherche. Ou pour ce qui est de la sécurité sociale, le compromis vise à garantir un certain nombre de droits aux citoyens de l'Union et aux ressortissants britanniques. Dans les derniers mois, on s'est concentré sur le volet commercial. Les entreprises britanniques pourront vendre leurs produits sans quota et sans payer de droits de douane. Mais attention à certaines conditions, qu'elles les produisent en respectant les normes européennes en matière environnementale, fiscale ou encore sociale. Un mécanisme conjoint réglera les éventuels désaccords. Enfin, sur la pêche, l'équivalent d'environ un quart des prises de pêche réalisées par les Européens dans les eaux britanniques devrait être restitué sur une période de 5 ans et demi. Ensuite, il faudra renégocier.
Sur la pêche, justement, Angélique, arrêtons-nous quelques instants sur ce point de négociation difficile. Pour un résultat hier que les pêcheurs européens n'ont pas tous apprécié totalement. C'est un faux accord, estime aussi Frédéric Cuvillier. Le maire de Boulogne-sur-Mer, ancien secrétaire d'État chargé de la pêche, dénonce cet accord au micro de Maxime Debs.
Avant l'accord Brexit, nous avions une seule question. Y aura-t-il ou non un accord? Et bien maintenant qu'il y a un accord, nous avons 100 questions. 25% sur quoi? Quelle zone de pêche? Quelle espèce? Est-ce que nous parlons de tonnage, de valeur? Quelles sont les autorités de contrôle? Quelle garantie aussi sur un risque qui est majeur et dont personne ne parle, de ce que le Brexit peut amener, c'est-à-dire la surexploitation des zones de pêche britanniques par des accords dits pays tiers? C'est l'environnement marin qui est atteint. Et nous sommes les voisins de cela. Nous ne pouvons pas en être les spectateurs, ni même les complices. Donc, il n'y a pas d'accord sur la pêche, il y a un accord global, l'accord de faire des accords.
Et en attendant plus de détails sur cette entente annoncée hier, les pêcheurs et les mareyeurs français pourront bénéficier d'une aide forfaitaire pouvant aller jusqu'à 30 000 euros. Le ministère de la Mer l'indique. Les pêcheurs pourraient perdre en moyenne 8% de leurs produits. Revenons aux 2000 pages avec annexe du texte validé par les négociateurs pour le Brexit. Angélique Boin, vous êtes toujours à Bruxelles. Il n'y aura plus par ailleurs d'Erasmus Outre-Manche, ce programme étudiant phare de l'Union européenne.
Et non, Londres n'en a plus voulu, c'est d'ailleurs désolé le négociateur Michel Barnier, parce que cela coûte trop cher au Royaume-Uni, a expliqué le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui évoque une décision difficile pour les étudiants européens. Ils sont 150 000 en ce moment au Royaume-Uni. S'inscrire deviendra donc plus cher et plus compliqué. Bruxelles a demandé à ce sujet plus de clarté.
Merci Angélique Boin pour ces précisions ce matin. Quelles sont maintenant les grandes étapes pour ce compromis annoncé ? En l'état, sachez qu'il ne peut pas être appliqué au 31 décembre prochain car il lui manque des validations, notamment celle du Parlement britannique. Ce devrait être une formalité dans les jours qui viennent car le Premier ministre semble avoir séduit toute la classe politique outre-Manche. Explication justement de notre correspondant à Londres, Richard Place.
Les anciens premiers ministres, l'opposition travailliste, les entreprises, ils ont tous poussé un grand ouf de soulagement. Les discussions enlisées depuis de longs mois et les déclarations fracassantes du gouvernement les effrayaient. Et Boris Johnson semble le premier réjoui. C'est pourtant bien lui qui parlait des conditions inacceptables proposées par Bruxelles il y a encore peu. C'est bien son gouvernement qui préparait 4 navires de guerre pour repousser les pêcheurs européens qui entreraient dans les eaux britanniques au 1er janvier. C'est lui aussi qui prédisait un avenir radieux à tout le royaume, avec ou sans accord. Il respire mieux aujourd'hui et le pays avec lui. Évidemment, la lecture minutieuse des 2000 pages de ce texte soulèvera des questions et le Premier ministre n'en a pas fini avec l'Europe, ses amis européens, comme il dit maintenant. Boris Johnson obtient toutefois un succès dont tout le monde semble lui donner crédit ici. Rien d'anodin pour celui qui a vécu une année particulièrement compliquée.
Le vote au Parlement britannique est prévu mercredi prochain. Ajoutons que le Parlement européen doit aussi valider l'accord, tout comme les 27 États membres. Leurs ambassadeurs se réuniront d'ailleurs tout à l'heure à partir de 10h30 pour commencer à examiner ce texte. À la frontière avec le Royaume-Uni, les routiers expérimentent déjà la fin de la libre circulation des citoyens, des marchandises et des services. Des milliers de camions attendent toujours de pouvoir passer la frontière dans le port anglais de Douvres. Ils doivent tous faire un test Covid-19 pour pouvoir rejoindre le continent et la queue semble encore interminable ce matin. Le Covid-19 et ses conséquences économiques, Airbus avait annoncé un plan social, 4300 postes supprimés. Eh bien, il ne devrait pas y avoir de licenciements secs ni de départs contraints, et ce grâce aux départs anticipés et aux aides du gouvernement. Une éclaircie aussi dans les Antilles pour les professionnels du tourisme en ce moment. La Guadeloupe attend par exemple 30 000 vacanciers pour cette fin d'année, car la situation sanitaire sur place est plus légère qu'en métropole. Si ce retour effraie une partie de la population, il réjouit tout de même les hôteliers au CNTR.
Tous les jours, 6 à 7 vols en provenance de Paris atterrissent à Pointe-à-Pitre. Catherine Cadreau est la gérante de l'hôtel Arawak Beach Resort à Gosier. Ses 112 chambres affichent déjà presque complet pour la semaine du Nouvel An.
Pour moi, c'est une période d'espoir. Une reprise pendant 10 jours de la fréquentation touristique nous donne espoir que notre destination reste encore appréciée. Nous aurons encore la confiance des touristes puisque revenir comme ça à la fin de l'année, c'est donner de l'espoir aux acteurs économiques.
La gérante n'oublie pas les précautions sanitaires pour autant. Elle invite ses clients à porter le masque, se désinfecter les mains, mais aussi à effectuer un test PCR 4 jours après leur arrivée. Mais selon une partie de la population guadeloupéenne, la prudence ne suffira pas. Face à ce retour des touristes, certains Guadeloupéens critiquent le manque de considération des autorités. Gabi Clavier travaille au CHU de Guadeloupe. Il est aussi membre du principal syndicat des travailleurs de la santé.
Organiser, j'allais dire, des vacances pour les touristes en Guadeloupe, on lève, j'allais dire, du mépris. Parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui comment le système hospitalier réagira à cette troisième vague prévue, inévitable, en nous disant que le tourisme, bien évidemment, c'est l'économie, en nous disant que le tourisme, on a besoin du tourisme pour faire repartir la Guadeloupe, avec des gens qui ont peur de mourir, avec des gens qui risquent d'être mis en difficulté personnelle.
La préfecture tente de rassurer la population. Elle lance une campagne d'action pour sensibiliser avec distribution de flyers sur les mesures sanitaires dans les aéroports et tests négatifs obligatoires pour rentrer sur le territoire.
Océane Théard.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Ce fut un réveillon de Noël aux saveurs inédites cette année.
Masque sur le nez, mains désinfectées, pas plus de 6 adultes à bonne distance les uns des autres à table. L'épidémie de Covid-19 a chamboulé la fête hier soir, même si s'il n'y avait pas de couvre-feu en France. Noël célébré donc tout de même, et cela a visiblement fait du bien à Jean-Luc Retzer, que nous avons choisi d'interroger ce matin. Il est député Les Républicains du Haut-Rhin, et c'est un rescapé du Covid-19. Il a en tout cas été le premier parlementaire officiellement atteint par le virus, avec de premiers symptômes fin février, qui l'ont conduit à l'hôpital à Mulhouse dès le mois de mars dernier. Placé en réanimation, plongé dans le coma pendant 4 semaines, il a fini par s'en sortir, Rosalie Lafarge.
De ces longues semaines passées entre la vie et la mort, Jean-Luc Retzer a bien failli ne pas revenir. Alors évidemment, ces fêtes ont une saveur particulière.
C'est vrai que Noël, je ne pensais pas forcément pouvoir le vivre et ma famille ne pensait pas pouvoir le vivre forcément avec moi. Et donc c'est vrai que c'est un peu une résurrection, quoi.
Le député de 68 ans l'assure, il va aujourd'hui très bien, même s'il a quelques séquelles.
C'est aussi une magnifique leçon de modestie et d'humilité que j'ai vécue. Parce qu'on imagine que tout va bien, qu'on est en pleine forme. Mais quand on doit apprendre les gestes quotidiens, ne serait-ce que pouvoir déglutir, ne serait-ce que pouvoir marcher même quelques pas et faire sa toilette soi-même, c'est aussi une belle leçon d'humanité.
Remis sur pied, Jean-Luc Retzer a fait son retour à l'Assemblée en octobre sous les applaudissements nourris de l'hémicycle.
Merci mes chers collègues.
Il a profité du micro pour demander au Premier ministre de s'engager à ne plus fermer de lignes et de services dans les hôpitaux, marqués évidemment par ce qu'il venait de traverser.
J'ai été maire pendant 34 ans de ma commune, petite ville d'Alsace, Altkirch, où il y a un hôpital. Donc j'ai déjà connu, si vous voulez, du côté financier, du côté administratif, la lutte pour éviter des fermetures de services. Mais c'est sûr que de le vivre à l'intérieur, d'être le malade, on le voit différemment. Et c'est surtout à côté des chiffres, à côté des statistiques, il y a tout l'aspect beaucoup plus humain.
Terriblement reconnaissante envers ceux qui se sont occupés de lui, Jean-Luc Retzer fait de la revalorisation matérielle et financière des soignants un combat qu'il espère là encore victorieux.
Rosalie Lafarge. Les hôpitaux continuent de se désengorger sur le territoire avec un peu moins de personnes en réanimation à cause du Covid-19 aujourd'hui par rapport à hier. Le nombre de contaminations recensées quotidiennement augmente, en revanche toujours, alors que les Français n'ont jamais été autant à réaliser de tests de dépistage ces derniers jours pour pouvoir retrouver leurs proches. Plus de 21 000 nouveaux cas recensés en 24 heures donc, mais il faut toutefois noter que le taux de positivité, lui, est en baisse. Cela signifie que le nombre de tests est proportionnellement plus élevé que le nombre de cas positifs recensés en ce moment. La fin d'année encore Covidée donc, à plus ou moins grande échelle selon les pays. Par exemple, la troisième vague de Covid-19 est déjà là au Japon, sachez-le, où les médecins alertent la population sur les gestes barrières. Troisième vague aussi en Israël, qui reconfinera ce dimanche, mesure très restrictive dans le pays, avec fermeture des magasins et isolement de 2 semaines à l'hôpital pour les arrivants. Et puis de l'autre côté de la frontière, en Cisjordanie, il y a un couvre-feu nocturne. Hier à Bethléem se déroulait la traditionnelle messe de Noël, mais les images devant l'église de la Nativité ont bien changé. Habituellement, près de 4000 fidèles s'y rassemblaient. Hier, ils étaient une centaine, dont notre correspondant dans la région, Frédéric Mettezo.
Les décorations scintillent autant que les autres années, mais là, il n'y a presque personne pour les voir. Quelques badauds descendus de chez eux, des journalistes qui filment une place déserte, et Mohamed qui contemple tristement le sapin géant et la crèche. Je les installe chaque année, explique cet employé municipal. Mais cette année, avec le corona, c'est tellement différent. Allez, c'est bon, ça suffit. Dans l'église, seuls une centaine de fidèles peuvent apprécier le faste de la messe. Les choristes sont masqués, mais qu'elle souffle. Pour le patriarche latin de Jérusalem, cette pandémie nous demande d'imaginer un monde différent, fait d'une nouvelle solidarité et de relations fraternelles, où la possession est remplacée par le don, où l'aisance de quelques-uns devient un bien commun.
Cette année, vraiment drôle de Noël.
Frère Fabrice, un moine du Congo-Brazzaville, pense que plus il y a d'inquiétude, plus il y a d'espérance.
Les gens, lorsqu'ils sont dans des moments difficiles, ils sont plus assidus à la prière, ils cherchent plus l'aide. Lorsqu'on revoit un peu l'histoire avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël était toujours en attente d'un Messie qui viendra comme sauveur. Pendant ces temps difficiles, les chrétiens, les fidèles ont aussi besoin d'un sauveur.
Les commerçants ambulants remballent, ils n'ont vendu ni pralines ni boissons chaudes. Les bonnets de Père Noël à 1 euro n'ont pas trouvé preneur. Et dire qu'il y a un an, on avait battu ici tous les records de fréquentation.
C'était Frédéric Mettezo depuis Bethléem pour France Culture. Autre messe habituellement célébrée en nombre, celle du pape François dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Devant hier soir, 150 fidèles, pas plus. Le pape François a appelé à consoler les larmes de celui qui souffre et à servir les pauvres. La météo de ce vendredi en France métropolitaine avec des pluies légères ce matin du centre jusqu'au nord de la France. Ailleurs, le temps va osciller entre nuages et éclaircies. En ce matin du 25 décembre, les températures sont assez homogènes, Guillaume, et fraîches. 4 degrés en moyenne au nord de la Loire, 5 à 9 degrés au sud.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Vous avez des petits yeux, ce sont des yeux de Noël, mais ils scintillent. Nous parlerons dans quelques instants de la révélation et puis de la manière dont ces fêtes de Noël évoquent le présent, mais aussi le passé. On reviendra à la personne du Christ en compagnie de Thomas Romer, qui est administrateur du Collège de France et titulaire de la chaire Milieu biblique, et le philosophe et phénoménologue Jean-Luc Marion, qui publie d'ailleurs La Révélation aux éditions Grasset. Et puis alors, dans 30 minutes, vous avez rendez-vous avec le prix Goncourt Hervé Le Tellier. Comme vous le savez, il a publié L'Anomalie aux éditions Gallimard, qui lui a valu le prix Goncourt. Et il nous emmène, comme chaque jour pendant ses vacances de Noël, en voyage. Et puis, un coup de fil pour savoir comment le milieu culturel vit cette période particulière, aujourd'hui nous serons en ligne avec Jean Labadie, producteur et distributeur du Pacte. Dans quelques instants, un billet politique avec Frédéric Seize.